Et le journal vous est présenté par Anne-Laure Chouin, bonjour.
Bonjour à tous. Une victoire judiciaire pour les familles des victimes de Mohamed Merah et un jugement qui pourrait en entraîner d'autres. Hier, le tribunal administratif de Nîmes a jugé l'État en partie responsable de la mort d'un militaire tué par Mohamed Merah. Il a fait droit à la demande de la famille d'Abel Chenouf, abattu en 2012 à Montauban par le tueur de Toulouse. Le tribunal a estimé que l'arrêt en amont de la surveillance de Mohamed Merah avait compromis les chances d'empêcher un attentat. Pour Béatrice Dubreuil, l'avocate de la famille Chenouf, cette victoire judiciaire n'est qu'une étape. Elle est interrogée par Florence Turm.
Pour nous, c'est une, enfin pour nous et la famille que je représente, donc la famille d'Abel Chenouf, donc qui a été lâchement assassiné par Mohamed Merah le 15 mars 2012, c'est une première victoire d'un long combat qui est mené depuis le 15 mars 2012 et une grande fierté pour reprendre les propos de Monsieur Albert Chenouf, donc le papa d'Abel. La responsabilité de l'État a été reconnue donc des services de renseignement puisque le suivi et la surveillance de Mohamed Merah a été totalement arrêté après novembre 2011 alors qu'il revenait des camps d'entraînement au Pakistan, donc des zones tribales. Cette décision est totalement inexplicable, inadmissible surtout, et le combat maintenant que nous allons mener, c'est de savoir qui a pris la décision d'arrêter cette surveillance. Une information judiciaire a été ouverte à la suite d'une plainte que la famille Chenouf-Monnet a déposée. Ce volet-là, donc c'est le volet pénal, et c'est cette question, j'espère que le volet pénal nous permettra d'y répondre.
L'avocate de la famille Chenouf, Béatrice Dubreuil. Changement de Premier ministre au Royaume-Uni. Theresa May prend donc aujourd'hui les rênes du pouvoir plus tôt que prévu et va s'atteler à faire sortir la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Un Brexit qui n'aura pas lieu immédiatement, a-t-elle annoncé. L'article 50 du traité de Lisbonne qui permet la sortie de l'Union ne sera sans doute pas activé avant la fin de l'année malgré les pressions de ses collègues européens. Un Brexit qui pourrait avoir des effets sur la croissance économique française. C'est en tout cas ce que prévoit le FMI qui vient de réviser à la baisse sa prévision pour 2017. La croissance attendue en France l'an prochain passerait de 1,5 à 1,25%. Un ralentissement qui, s'il se vérifie, risque de contrarier le gouvernement qui tablait, lui, sur une croissance de 1,6% l'année prochaine. Jean-Marc Chardon.
On est seulement à l'heure des anticipations de croissance, mais avec les dernières prévisions du FMI, si la France ralentit l'an prochain, ce ne sera pas sans conséquence. Les experts du Fonds monétaire international entrevoient une reprise plus lente de l'investissement dans les entreprises en raison de l'incertitude qui plane sur les marchés financiers. La France risque aussi d'être pénalisée sur ses exportations importantes vers le Royaume-Uni, dont les échanges devraient se contracter. À quoi s'ajoutera une autre période d'incertitude précédant les élections présidentielles. Dans ces conditions, la France se retrouverait sous la moyenne de la croissance européenne de 1,4% l'an prochain. À ce rythme, la question de l'inversion de la courbe du chômage pourrait de nouveau se poser car une croissance ralentie se répercute en moindre création d'emplois, peut-être 80 000 qui pourraient manquer à l'appel. Des avertissements qui ne sont pas les seuls. Il y a aussi ceux du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, qui appelle à la mobilisation collective. Il pointe la nécessité de ne pas relâcher l'effort à cause d'échéances électorales et descendre sous la barre des 3% de déficit en 2017. Question de crédibilité, tout simplement.
Et puis, le commissaire européen aux affaires économiques souhaite que l'amende potentielle infligée à l'Espagne et au Portugal pour leur dérapage budgétaire soit égale à zéro. Déclaration ce matin de Pierre Moscovici qui ne souhaite pas donner d'arguments supplémentaires aux eurosceptiques. Demain, à 13h, le président de la République donnera la dernière interview du 14 juillet de son quinquennat. François Hollande sera interrogé sur les dossiers du moment, notamment, on l'imagine, sur la loi travail, sur Emmanuel Macron et en ce jour de fête nationale sur les sujets régalien de la défense et de la sécurité. Dans ces derniers domaines, à moins de 10 mois de la présidentielle, le chef de l'État peut compter sur un ministre solide, relativement populaire et surtout loyal, Jean-Yves Le Drian. Le ministre de la Défense, assez rare dans les médias, donne une longue interview et il le fait dans le très droitier hebdomadaire Valeurs Actuelles. Vous l'avez lu, Antoine Denecher.
Quel autre ministre socialiste, en effet, peut ainsi faire la une de Valeurs Actuelles, le magazine de la droite identitaire et décomplexée? Jean-Yves Le Drian, en poste depuis 2012, envoie clairement un message à cet électorat qui n'a pas forcément gardé un bon souvenir du quinquennat Sarkozy, marqué par une baisse importante du budget de la défense. Le menhir rappelle donc le recrutement de 11 000 hommes de plus dans l'armée de terre, la hausse des effectifs dans le renseignement, les 63 milliards d'euros de contrats signés par les entreprises françaises et, selon Valeurs Actuelles, Jean-Yves Le Drian plaide d'ailleurs auprès de François Hollande pour porter à terme le budget de la défense à 2% du PIB, soit autant voire plus que ce que proposent les candidats à la primaire de la droite. Car pour 2017, ce fidèle de François Hollande, plutôt populaire chez les militaires, apprécié à droite et à gauche, souhaite que les sujets de défense entrent enfin dans le débat électoral, signe sans doute que selon lui, le locataire de l'Élysée a un bilan à faire valoir sur la guerre contre le terrorisme, notamment au Mali, ou la défense de la souveraineté nationale avec ce message sur l'actuel chef des armées. Je l'ai toujours vu trancher et trancher clairement. On ne sait donc pas si François Hollande sera candidat, mais après les récentes promesses présidentielles de hausse du budget de la culture ou de baisse des impôts en 2017, la montée au front du soldat Le Drian vient compléter le tableau au cas où.
Antoine Denecher, après la légionelloïse, puis le suicide d'un éminent cardiologue, voilà maintenant des champignons. Décidément, l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris enchaîne les dysfonctionnements. Des champignons ont été retrouvés en effet dans des salles d'opération. L'hôpital a dû fermer lundi soir 9 d'entre elles pour présence d'aspergillus, un champignon filamenteux semblable à de la moisissure. Le nettoyage a débuté hier matin. Willy Moreau.
Le champignon a été découvert dans 3 salles d'opération au cours d'un prélèvement de l'air. Immédiatement, la direction a décidé de fermer tout le bloc 1. Il comporte 9 des 24 salles de l'hôpital. Une mesure à la hauteur des risques. En cas de contamination, les effets peuvent être multiples. Irritation de la gorge, saignement du nez, essoufflement ou douleur musculaire. Mais la direction se montre rassurante. Aucun cas de contamination n'a été signalé. Tout a été fait pour prendre des mesures à temps puisque l'hôpital vit encore avec le souvenir des 5 patients décédés après une épidémie de légionellose en 2001. Dans ces salles fermées, on pratique de la chirurgie orthopédique et des opérations digestives lourdes. Pour pallier la demande, la PHP a mis en place un service de réorientation en lien avec les autres hôpitaux parisiens, le temps de procéder à la désinfection des salles. Une réorientation plutôt efficace puisque les services d'urgence n'ont pas été saturés hier. L'origine de cette présence d'aspergillus n'est pas encore connue, mais il semblerait que la contamination ne soit pas due à une personne. Après un nettoyage complet, des prélèvements vont à nouveau être menés. L'idée est de s'assurer qu'il n'y a aucun risque avant une réouverture des salles prévue au plus tôt lundi prochain.
Au Venezuela, le président Maduro a ordonné la mise sous autorité militaire des 5 principaux ports du pays, une décision prise pour tenter de résoudre la très sévère crise économique qui secoue le Venezuela. Un déploiement militaire qui se fera aussi dans les aéroports et les entreprises. Nicolas Maduro prend ainsi le commandement total de toute l'économie du pays qui connaît notamment une pénurie de vivres et de médicaments. Le temps de ce 13 juillet pour finir instable sur une majeure partie du pays avant une pause dans les averses par l'ouest. Les températures, elles seront bien fraîches pour la saison avec 10 à 15 degrés le matin du nord au sud, 18 à 22 près de la Méditerranée, les maximales entre 17 et 21 degrés sur une grosse moitié nord cet après-midi, 20 à 29 sur le sud. Ces journaux ont été préparés avec Julien Loquet et François-Charles Domergue. Retour de l'information à 12h30 avec Antoine Mercier. Excellente journée.